France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, où que vous soyez, chez vous, quelque part sur la route ou ailleurs. Chaque samedi de cet été, nous essayons de réfléchir aux grands enjeux économiques, ceux qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée, et davantage encore bien sûr à ceux qui sont devant nous, et avec des invités. Bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire, plus de 35 minutes. Et ce soir, je vous propose un échange sur l'énergie. Pendant longtemps, ce bien précieux nous a paru infini et sans danger. Cette année, nous avons craint d'en manquer d'énergie. Et nous savons que certaines énergies sont infiniment dangereuses pour le climat. Mes deux invités sont Catherine McGregor, la dirigeante de l'entreprise bien connue Engie, et François Gemmen, un spécialiste des questions politiques liées au climat.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Bonsoir Catherine McGregor.
Bonsoir Dominique Seux.
Bonsoir François Gemmen.
Bonsoir.
Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais interroger Catherine McGregor. Et ensuite, pendant un autre quart d'heure, il y aura un échange avec François Gemmen. Pour commencer, Catherine McGregor, décrivez-nous un peu la carte d'identité du groupe que vous dirigez depuis 2 ans et demi maintenant. Alors je donne juste 2 éléments quantitatifs très faciles à retenir. Engie, ce sont environ 90 000 salariés et un chiffre d'affaires un peu supérieur à 90 milliards d'euros en 2022. Mais combien y a-t-il d'éoliennes dans le monde, en France, de centrales solaires, de centrales à gaz et peut-être aussi à charbon ?
Engie est un acteur effectivement majeur de l'énergie. C'est, figurez-vous, le premier producteur dans l'éolien et dans le solaire en France. Donc en France, par exemple, nous opérons 1200 éoliennes et nous sommes le premier producteur d'éolien et solaire. Nous sommes présents dans une trentaine de pays. Donc vous l'avez dit, on a 100 000 collaborateurs. Et notre mission, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et on fait ça, en fait, en développant massivement les énergies renouvelables. Mmh. Les énergies renouvelables, c'est évidemment l'éolien et le solaire, mais également le gaz vert. Le gaz est important. Et on fait ça également en accompagnant nos clients dans leurs enjeux de décarbonation. Donc voilà ce que c'est la mission d'Engie.
Et vous avez aussi 2 centrales nucléaires en Belgique. Vous n'en avez pas d'autres.
Alors, on opère aujourd'hui 5 centrales nucléaires en Belgique. On en avait 7, on n'en a plus que 5, effectivement. On produit de l'électricité aujourd'hui massivement à partir des énergies renouvelables, donc dans l'éolien et le solaire. On a à peu près 38% de notre production qui provient des énergies renouvelables. On a également des centrales à gaz et puis effectivement un tout petit peu de charbon qui nous reste, à peu près 2,6% de notre production.
Au niveau mondial.
Au niveau mondial, bien sûr. Et on a un engagement très ferme de sortir du charbon, bien sûr, parce qu'on décarbone notre production.
Combien de centrales à gaz ?
Alors, on en a une cinquantaine dans le monde. D'accord. Qui produisent et donc une partie importante de cette électricité. Le charbon, on en sort puisqu'on a pris un engagement de sortir du charbon en 2027 sur l'ensemble du monde.
Et pour finir sur la carte d'identité, quel rang parmi les énergéticiens en Europe, Engie ?
Alors, on est le 4e acteur européen dans le monde.
D'accord. Nous venons de vivre évidemment une année marquée par la guerre en Ukraine, en plein été, en pleine canicule dans beaucoup de pays. Nous avons déjà presque oublié ce moment où nous avons failli manquer de gaz et d'électricité. Quelle est la situation pour l'automne et pour l'hiver prochain ?
Alors, quand on envisage l'hiver prochain, c'est vrai qu'on est relativement positif parce qu'on regarde 2 facteurs qui sont importants. Un, c'est l'état de remplissage des stockages de gaz et le remplissage des stockages de gaz est très bon et qui nous laisse envisager qu'en début d'hiver, on va être à peu près à 100% sur l'ensemble de l'Europe, ce qui est très positif.
Donc ça, c'est très rassurant pour les consommateurs qui nous écoutent.
C'est relativement rassurant. Ouais.
Ah, j'ai entendu le relativement.
Oui, non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que les volumes que la Russie livrait à l'Europe, ces volumes ont disparu du marché global. Et donc, on a toujours dit qu'on avait perdu beaucoup de marge de manœuvre et qu'on avait quand même un système énergétique globalement, qui resterait sous tension jusqu'à ce que de nouveaux volumes arrivent sur ce marché mondial. Et donc, cette arrivée de nouveaux volumes, nous, on l'envisage plutôt en 2026-2027. Donc, on a toujours dit que le système énergétique...
Donc il y a une petite phase un petit peu compliquée quand même à gérer d'ici 2025.
Absolument, hein. Absolument. D'où la nécessité, bien sûr, de garder les efforts de sobriété, hein, que nous avons appelés de nos voeux dès l'année dernière, évidemment. Donc sobriété va être important. Et puis, oui, peut-être s'attendre à une certaine volatilité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui beaucoup dans les prix, quand vous regardez les prix de l'énergie. Vous voyez que l'annonce d'une nouvelle, d'un petit pépin technique sur une infrastructure en Norvège peut créer un choc ponctuel des prix qui augmentent très rapidement, parfois pour le gaz, de 20 euros du mégawatt-heure en très peu de temps, ce qui montre cette nervosité qui, bien sûr, résulte de ce système qui est aujourd'hui effectivement
sous tension. Donc sur les volumes, sérénité, mais sur les prix, les consommateurs, parce que c'est important de le savoir, il n'y a plus de bouclier aujourd'hui en France sur le gaz, et donc les consommateurs doivent s'attendre à ce que ça fluctue un peu quand même.
Hein. Donc, effectivement,
on ne revient pas à l'avant-crise ukrainienne.
Exactement. La crise n'a pas disparu, et c'est vrai sur le gaz, c'est vrai également sur l'électricité, puisque bien sûr, les deux sont relativement corrélés. Et donc l'effort de sobriété qu'on appelle de nos voeux, bien sûr, s'applique sur le gaz, mais également sur l'électricité.
Aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence au début du mois de juillet, il y avait eu un échange entre vous-même et Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui était un peu moins optimiste que vous, un peu moins serein sur l'hiver prochain. Qu'est-ce qui explique cette différence
d'appréciation. Je pense qu'on disait à peu près la même chose. Je pense que lui comme moi, on est très satisfait des niveaux des stockages. Après, ce qu'on a dit, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'on pouvait s'attendre sur les prix à de la volatilité. Et donc, je pense qu'on est finalement... On est plutôt assez d'accord, à mon avis.
Bon, en tout cas, il faut espérer qu'il ne fasse pas trop froid non plus.
Voilà, parce donc que s'il fait froid, vous avez complètement raison. Donc, les facteurs, bien sûr, à considérer, c'est le climat est important. Et puis aussi, le maintien... d'un comportement raisonnable des consommateurs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, nous, on considère que la demande en gaz, elle est encore inférieure d'environ 20% dans le secteur industriel au moment pré-crise. Donc, en fait,
il y a eu un effort absolument considérable, à la fois des consommateurs particuliers et de toutes les entreprises.
Exactement.
Et cet effort... Qui n'était pas un effort, j'allais dire, contraint parce qu'il n'y a pas de production. C'est une vraie sobriété choisie.
Il y a aujourd'hui une vraie sobriété. Alors, on peut peut-être discuter qu'une partie est subie parce que les prix ont été très élevés. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette réduction de demande, on l'observe encore... nous, chez nos clients. Et donc, bien sûr, ça nous permet, quand on fait nos scénarios pour les hivers prochains, d'intégrer cette baisse de demande, ce qui, bien sûr, donne un petit peu d'air à ce système énergétique sous tension.
Vous dites moins 20% en ce moment pour les industriels, c'est-à-dire les gros industriels et pour les consommateurs particuliers.
À peu près 10% sur le gaz.
D'accord. Donc, c'est ça fait quand même quasiment maintenant 9-10 mois qu'il y a ce moins 10%. Donc, vous estimez qu'il peut être pérenne?
Honnêtement, on l'espère aussi un petit peu, puisque cette sobriété, elle est importante pour le court terme, mais elle va être également très importante pour le long terme, puisque pour la décarbonation de notre système énergétique, on va avoir besoin d'efficacité énergétique, de sobriété.
Alors, il y a la sobriété qui a permis effectivement de passer l'hiver, et on espère que ça continue. Mais racontez-nous un petit peu comment une entreprise comme Engie et d'autres acteurs, vous avez réussi collectivement à remplacer le gaz russe en moins d'un an. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y avait beaucoup de gaz qui arrivait de Russie. Et vous avez trouvé d'autres sources, qu'on appelle techniquement le resourcing. D'où vient le gaz aujourd'hui?
C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, c'était assez extraordinaire. Surtout qu'on oublie que, en fait, la crise, elle a commencé à poindre dès l'été 2021.
Oui.
Été 2021, on a commencé à voir les prix de l'énergie augmenter de manière significative. Et puis, pendant l'automne, on a vu que les Russes ne livraient plus de gaz sur le marché de gros. Alors, ils remplissaient toujours leurs engagements contractuels, mais en revanche, sur les marchés de gros, les livraisons n'arrivaient plus. Et donc, on a commencé à voir les prix qui augmentaient. Et on a, je crois, assez collectivement alerté sur, par exemple, les stockages de gaz qui étaient historiquement très, très, très bas. Donc, avant même que la guerre éclate, plus tard en février, on avait déjà... alerté en fait sur le fait que le système énergétique semblait montrer des signes de tension, avec également sur l'électricité, on commençait à avoir des annonces d'EDF qui avaient découvert des problèmes techniques potentiellement sur ces centrales nucléaires. Donc vraiment quelque chose qui est arrivé assez tôt finalement. Et puis ensuite, bien sûr, la guerre et ses conséquences tragiques, avec ensuite pour nous un devoir d'alerte et de communication pour dire au pouvoir public, et en particulier à l'Union européenne, qui réfléchissait au paquet de sanctions, vous vous rappelez. Mmh. Et on avait dit, attention au paquet de sanctions, bien sûr qu'il faut faire ce qu'il faut faire politiquement, mais attention à créer des chocs que nos sociétés ne pourraient pas supporter. Ouais. Et particulièrement, un arrêt brutal des livraisons russes, à l'époque, hein, dès février, nous semblait potentiellement amener des conséquences catastrophiques. Il nous fallait du temps.
C'est vrai qu'un certain nombre de commentateurs, surtout, disaient, ou de responsables politiques, disaient, il faut couper tout de suite, il faut arrêter, parce qu'on finance la guerre russe, ce qui était vrai. Mais vous, les acteurs, vous disiez, attendez, il faut que ce soit un peu ensifflé.
Il nous faut du temps. Et d'ailleurs, moi, j'avais donné une interview dans un journal, et le titre, c'était parler du scénario de l'extrême, et on m'avait dit, t'exagères un petit peu quand même. Et je pense que c'était important qu'on alerte nos politiques et les décideurs pour leur dire, attention, nous avons besoin de temps.
Et alors, où êtes-vous allé chercher ce gaz ?
Voilà, donc on a utilisé des contrats qu'on avait déjà dans notre portefeuille, et puis, bien sûr, demandé des volumes supplémentaires, en particulier des Norvégiens, un petit peu avec l'Algérie, et puis beaucoup le GNL. Le GNL, qui est parfois décrié,
le gaz naturel liquéfié,
donc qui arrive en Europe par bateau, et qui, bien sûr, donne une optionnalité, puisqu'on peut choisir les fournisseurs de GNL, donc les Américains en particulier, sont beaucoup, beaucoup montés en puissance et sont devenus, bien sûr, un fournisseur très important de GNL. Mais ça nous a permis assez rapidement, effectivement, de trouver un remplacement à ces volumes russes. Alors, pour la France, on était à 20% et pour Engie également. Hein, donc, c'était à peu près 20% des volumes qu'il a fallu remplacer. Ce qui nous
donc
a permis.
Norvège, j'entends. Norvège, Algérie, États-Unis. C'est
voilà,
ça qu'il faut
retenir. Principalement pour nous, pour Engie. Après, bien sûr,
Est-ce que ça crée des nouvelles dépendances?
Alors, ce qui est important, c'est d'en avoir suffisamment pour se dire que s'il y en a un avec lequel vous ne voulez plus faire affaire, vous pouvez le remplacer.
Parlons maintenant du modèle énergétique d'aujourd'hui et de demain. Alors, la France vit sur un mode nucléaire, gaz, énergie renouvelable, presque plus de charbon et de fioul, ce qui est effectivement mieux que d'autres pays. Mais que faut-il faire pour être plus indépendant et de plus en plus décarboné? Au fond, quel est votre scénario énergétique pour les années qui viennent?
Il faut qu'on arrive à équilibrer un jeu de contraintes. J'ai cette visualisation d'un triangle avec trois contraintes très importantes qui sont bien sûr la décarbonation. Donc on a cet objectif d'être net zéro en 2050. Mais il faut également prendre en compte la compétitivité de nos économies. Et troisième point extrêmement important, des aspects d'impact social et équité. Donc le coût pour la société et des aspects d'acceptabilité sociale de cette transition. Et donc, quand on a fait notre trajectoire de décarbonation, ce qu'on a vraiment voulu prendre en compte, c'est bien sûr, il faut qu'on arrive à net zéro en 2050. Il faut minimiser le coût de cette transition énergétique. Okay. Et il faut en garder, bien sûr, un coût abordable. Et pour ça, nos conclusions, c'est finalement assez simple, c'est de dire, il va falloir utiliser tous les leviers de la décarbonation. Il va falloir multiplier par 6 les énergies renouvelables pour répondre à un besoin d'électrification
d'ici
2050
en Europe. D'ici 2050.
En Europe.
Et d'ici 2030 parce que c'est ça qu'on a en tête, l'horizon qui nous paraît plus proche.
Alors, d'ici 2030, il faut accélérer beaucoup par rapport au rythme d'aujourd'hui. Absolument. Sur les renouvelables. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre, en fait, à une augmentation de l'électrification. Donc, en fait, l'électrification des usages ou la demande en électricité.
Donc, les voitures électriques, mais plein d'autres choses.
Hein. Voilà. Va augmenter de 80% en Europe à l'horizon 2050. Et donc, pour répondre à cette explosion de demande de l'électricité, il va falloir développer massivement les énergies renouvelables. Donc, ça, c'est un point très important. Deuxième point très important, c'est la molécule. Donc, la molécule, c'est quoi?
Donc,
c'est
la molécule,
le gaz. Qui est aujourd'hui du gaz fossile, donc du gaz naturel, et qu'on va décarboner, et qui joue un rôle absolument essentiel dans le système énergétique. C'est vrai que quand on parle de décarbonation, on a souvent à l'idée le fait que tout va être électrifié. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tout électrifier les usages, et que, par exemple, l'industrie lourde, l'aviation, sur les longs trajets, bien sûr les transports maritimes, et les transports aussi routiers, vont probablement rester avec un usage lié à la molécule. D'où le besoin de décarboner cette molécule avec aujourd'hui le biométhane et puis bien sûr l'hydrogène et les dérivés d'hydrogène.
Donc, mais ça, c'est à quel horizon? Parce que l'hydrogène,
alors le biométhane, c'est aujourd'hui.
Le biométhane, c'est aujourd'hui.
Nous, à 2030,
en avoir suffisamment.
Oui, alors à 2030, par exemple, nous, on estime que le potentiel en France du biométhane, c'est environ 20% du mix gazier, donc le gaz va évidemment baisser, mais le biométhane représentera à peu près 20%
d'accord.
du gaz à l'horizon
et 2030. Et l'hydrogène, c'est pas demain, c'est peut-être alors, pas après-demain, c'est après-demain, non ?
On voit bien que l'hydrogène, cette molécule dont on parle beaucoup, elle met un petit peu plus de temps à émerger, mais on pense qu'à partir de 2030, elle va jouer un rôle très important.
Bon alors, dites-nous, le biométhane exactement pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le biométhane, c'est du méthane qui est produit à partir de déchets, des déchets qui peuvent être des déchets agricoles, industriels, de l'industrie agroalimentaire, etc. Troisième point qui est très important, on n'en parle pas beaucoup, c'est le développement des moyens de production flexibles.
Ouais, parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle la pointe. On a besoin, quand la demande augmente, de trouver des ressources.
Il faut répondre aux besoins de la pointe. Vous avez raison, Dominique Seux, mais également, bien sûr, pallier l'intermittence structurelle des énergies renouvelables, parce que vous pouvez vous retrouver un soir d'hiver sans vent.
Et sans soleil, par définition.
Voilà. Et donc là, il vous faut des moyens de production flexibles qu'on peut appeler, c'est principalement des batteries. Donc aujourd'hui, on est vraiment au début du développement des batteries comme moyen de stockage pour compléter les renouvelables. Autre type d'actifs flexibles, ce sont les centrales à gaz, qu'on va utiliser de manière très différente, parce qu'aujourd'hui, les centrales à gaz, bien sûr, émettent beaucoup de CO2 parce qu'elles tournent beaucoup. L'idée avec les renouvelables, c'est que ces centrales à gaz, elles restent disponibles, mais elles tournent quasiment jamais. En fait, on les appellera uniquement quand on en aura besoin. Donc, très peu d'émissions. Et puis, bien sûr, on va décarboner le gaz qui permet de les alimenter. Et donc, pour finalement avoir une production flexible très, très peu émettrice en CO2.
Quelles sont les perspectives, dans les toutes prochaines années, il y a en gros 9000 mâts d'éoliennes en France. Dans 5 ans, combien y aura-t-il de mâts d'éoliennes terrestres en France et en parcs éoliens? Je sais que vous avez un certain nombre de parcs, peut-être moins qu'EDF d'ailleurs. Quels sont les projets en parcs éoliens?
Alors, nous, on a compté nos éoliennes, on en a 1200. Alors, maritime.
Je parlais du maritime, pardon.
Vous posez la question du maritime. Alors, effectivement, en France, on voit bien qu'on est quand même assez en retard sur l'éolien maritime. On a un potentiel qui est significatif parce que, bien sûr, on a une côte qui est magnifique.
Pourquoi on a si peu de parcs éoliens? C'est vrai que les Britanniques, les Néerlandais, toute l'Europe du Nord, il y a beaucoup de parcs. En France, il n'y en a quasiment pas. Ça démarre tout doucement. Il s'est passé quoi?
Je pense qu'on a été un petit peu...
C'est une erreur.
Je pense qu'on a été en retard pour identifier à la fois le potentiel et surtout l'urgence de développer ces ressources. De toute manière, on ne va pas y arriver en France sans l'éolien, à la fois l'éolien terrestre et l'éolien marin. Donc c'est très, très important d'avancer et d'accélérer.
Le débat public, pour vous, est un peu trop organisé autour du nucléaire et du futur nucléaire. On parle pas assez, il n'y a pas assez d'énergie sur les renouvelables.
Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a eu une récupération politique, presque, contre l'éolien. Il y a eu un mouvement anti-éolien en France, que je regrette chaque jour que Dieu fait, parce que je pense que aujourd'hui, l'éolien n'est pas associé à quelque chose de positif dans l'inconscient des Français, et c'est dommage.
Alors, une période de consultation s'est ouverte sur l'avenir du chauffage individuel au gaz, consultation jusqu'au 28 juillet. Le gouvernement a envisagé, paraît-il, une interdiction en 2026 de l'installation de nouvelles chaudières. Faut-il organiser la sortie ou pas des chaudières individuelles au gaz pour les particuliers ?
Nous, on a évidemment alerté le gouvernement et les pouvoirs publics sur les effets brutaux et les effets de choc d'une interruption ou d'une interdiction trop radicale des chaudières, avec deux aspects. L'un qui est, bien sûr, et vous l'avez évoqué, c'est la pointe, en fait. C'est que aujourd'hui, si vous dites du jour au lendemain, on arrête les chaudières, la demande électrique va exploser. Aujourd'hui, le gaz en chauffage, c'est à peu près 100 gigawatts. Si vous remplacez toutes les chaudières à gaz du jour au lendemain par des pompes à chaleur, il vous faut 20 gigawatts de plus. Donc, c'est une dizaine de PR.
Donc, on ne pourrait pas le faire.
Donc, on ne pourrait pas le faire. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut accompagner, bien sûr, la décarbonation du bâtiment. Et on prône, évidemment, des systèmes hybrides, donc avec, effectivement, des pompes à chaleur.
Ce serait la pompe à chaleur, y compris dans l'habitat urbain particulier, c'est possible ça ?
Alors, c'est possible. Alors après, on peut avoir des systèmes, soit des pompes à chaleur hybrides qui sont hybrides par conception. On peut aussi avoir des systèmes avec des pompes à chaleur qui sont complétées par les chaudières à gaz existantes. Donc, d'accord, vous avez un système, lui, qui devient hybride et qui permet effectivement de conserver le gaz en système d'appoint pendant l'hiver et qui vous permet d'éviter de sur... d'avoir un système électrique, ouais, qui soit surdimensionné. En fait,
c'est ça. Est-ce que vous pensez, tout à fait entre nous, avoir convaincu le gouvernement qu'il n'y aura pas de date d'interdiction des chaudières à gaz en France?
Alors, moi, je ne sais pas où est le gouvernement aujourd'hui là-dessus, mais je pense que le gouvernement est effectivement très sensible aux impacts sur le système électrique, mais également, bien sûr, impact social, l'impact sur la filière, et que ce genre de décision doit être organisé.
Oui, parce que les chaudières à gaz, il y a une filière française, les pompes à chaleur, c'est moins vrai, dites-vous.
Il y a une filière.
Il y a les deux.
Il y a une filière aujourd'hui, effectivement, sur les chaudières, qui est une filière riche, et qu'il faut bien sûr prendre en compte et potentiellement convertir à ces nouveaux métiers. Et ça peut prendre un peu de temps, et c'est très important qu'on prenne en compte ces impacts sociaux également. Et je sais que le gouvernement y est sensible, évidemment.
Merci, voilà pour cette première partie. Dans un instant, vous allez échanger avec François Gemen. Une pause musicale, comme on dit, si vous êtes au volant, selon la formule consacrée, soyez prudent. C'était Rog qui interprétait le titre Pravida.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Nous retrouvons Catherine MacGregor, mais cette fois avec François Gemen. Vous êtes, François Gemen, un spécialiste des questions politiques liées au climat. Vous êtes universitaire, enseignant à Sciences Po à Paris, chercheur à Liège, parce que vous êtes belge, co-auteur du GIEC. Je précise que vous êtes aussi membre du comité des parties prenantes d'ENGIE, qui a un rôle consultatif, et vous êtes bénévole. Votre première question, François Gemen, à Catherine MacGregor.
Merci Dominique, bonsoir à Catherine MacGregor. Ma première question, c'est effectivement, vous vous en doutez, sur la question de la transition énergétique. Alors, ENGIE s'affirme comme un acteur majeur de la transition énergétique en France et au-delà. Vous parlez beaucoup des énergies renouvelables. En bas de la tour ENGIE, les photos qui accueillent le visiteur, c'est des grandes photos d'éoliennes, de panneaux solaires. Alors, vous avez aussi un petit bout de nucléaire en Belgique, on va en parler. Vous avez un tout petit bout de charbon, et là, le plan est clair, il faut en sortir. Mais vous avez surtout du gaz. Alors la question, c'est, est-ce que dans le modèle d'affaires d'Engie, on peut envisager à terme de sortir complètement du gaz, alors que Engie est quand même historiquement une entreprise gazière? Est-ce qu'on peut faire à la fois du renouvelable et du gaz? Est-ce que c'est pas comme supporter à la fois l'OM et le PSG lors du Classico?
Alors, on va sortir du gaz naturel. Et on restera gazier, mais on aura décarboné le gaz. C'est ça le plan d'Engie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Engie ne produit pas de gaz naturel. Donc, nous opérons des infrastructures qui transportent du gaz. Aujourd'hui, il se trouve que ce gaz, il est principalement du gaz naturel, donc du gaz fossile. Mais il commence aujourd'hui déjà à avoir du biométhane dans nos tuyaux. Et donc, nous, notre perspective, c'est de dire que ces infrastructures, elles ne transporteront à l'avenir, alors ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr, elles ne transporteront plus que du gaz vert, cette fameuse molécule verte dont on parle beaucoup.
Et c'est quoi l'horizon?
Alors, nous, Engie, 2045, neutralité carbone, ça veut dire que l'ensemble de notre portefeuille sera du gaz vert.
Parce que si on regarde les prévisions du GIEC, lorsque le GIEC dit si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris et notamment le point 5, ça voudrait dire qu'il faut réduire la consommation de gaz au niveau mondial de 70% d'ici 2030. Comment est-ce que on peut être à la fois une entreprise qui vend du gaz et qui donc tire une partie conséquente de ses profits sur le gaz et envisager une baisse de la consommation mondiale de gaz?
Et je complète la question en disant que l'Agence internationale de l'énergie, elle, est extrêmement volontariste. Alors, c'est facile d'être volontariste pour les autres, mais elle est très ambitieuse sur l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation à la fois du pétrole et du gaz.
Alors, très clairement, la baisse de la consommation du gaz, nous, ça fait partie de notre scénario.
D'accord.
Nous, notre modèle d'affaires, c'est de mettre à la disposition des infrastructures qui vont transporter ce gaz en moindre quantité, mais elles continueront à le faire de manière très pérenne parce qu'il va falloir continuer à distribuer ces molécules aux utilisateurs. Alors, les utilisateurs, ça sera peut-être différent, mais il y aura un besoin pour les industries, pour les entreprises, d'avoir accès à cette molécule. Donc, les infrastructures ont un rôle, et d'ailleurs, il y a la CRE a publié un rapport là-dessus.
La commission de régulation.
La commission, notre régulateur, notre agence de régulation, a d'ailleurs confirmé le fait que ces infrastructures avaient un rôle pérenne parce qu'il va falloir continuer à distribuer, transporter ce gaz dont on va avoir besoin pour, dans ce mix énergétique que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une très grande conviction. Après, nous, notre modèle d'affaires, c'est vrai qu'on vend du gaz, mais on vendra du gaz décarboné. Donc, on a commencé, par exemple, à vendre du biométhane. On a fait un très beau contrat avec Arkema, donc un contrat de vente de biométhane à long terme. Et donc, voilà comment ce modèle d'affaires, il se transforme. Notre modèle d'affaires, c'est également de développer des énergies renouvelables massivement. Donc, c'est ainsi qu'on assure la pérennité, bien sûr, du modèle d'affaires d'Engie. C'est très important puisque on ne peut pas avoir une mission d'acteur de transition énergétique si on n'a pas un modèle d'affaires qui nous permet d'assurer cette durabilité économique. C'est absolument essentiel pour nous. Et cet alignement, moi, j'y suis très attachée. Je pense que sinon...
Bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment s'envisage la transition et comment s'envisage la part de l'un versus la part de l'autre.
Exactement. Mais le développement des batteries, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, c'est un business avant tout. Donc, nous allons, avec le développement des batteries, assurer la pérennité économique d'Engie.
La part des renouvelables aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires, aujourd'hui et demain, disons dans 10 ans, ça va évoluer comment?
Ça va évoluer de manière significative.
Quelles sont les parts respectives aujourd'hui?
Aujourd'hui, la part du chiffre des résultats des renouvelables sur l'ensemble de nos résultats, c'est disons à peu près, de mémoire comme ça, à peu près 10%. Mmh. Et ça va augmenter de manière significative, puisque bien sûr, on investit entre 22 et 25 milliards d'euros d'investissement de croissance chez Engie. À peu près, une bonne moitié de ça va dans les renouvelables. Et bien sûr, quand on investit dans les renouvelables, on a des critères de rentabilité. Donc, les renouvelables vont bien sûr apporter une contribution importante aux résultats d'Engie. C'est structurant pour nous. Évidemment, on ne va pas faire des investissements dans les renouvelables si on ne va pas en voir les bénéfices financiers. Donc ça, c'est vraiment très important, à la fois sur les renouvelables, sur les batteries, sur les gaz verts, sur les solutions de décarbonation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand on développe des réseaux de chaleur, des réseaux de froid, quand on développe des solutions de solaire sur site auprès de nos clients, bien sûr qu'il y a un modèle économique derrière, c'est très important. Et donc, c'est ainsi qu'on assure la pérennité du groupe Engie.
Vous voulez montrer qu'une grande entreprise énergétique et énergéticienne peut, dans le changement, dans la transition écologique, garder au fond, évoluer, mais préserver son existence de, comme elle l'a fait depuis des dizaines d'années, en fait.
Ah, c'est pas juste préserver, c'est assurer.
Se développer.
C'est assurer, se développer, croître même, puisque nous sommes en croissance. Hein. Donc oui, c'est ça qui est formidable aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est... On est très, très enthousiaste chez Engie, puisqu'on a des métiers en croissance qui sont alignés avec cette mission de transition énergétique.
Alors, si je voulais être un peu provocateur, je vous dirais que Total Energy dit globalement la même chose. Eux aussi investissent dans les énergies renouvelables, eux aussi veulent se diversifier. Et pour autant, Total Energy ne serait pas décrite, je crois, comme un acteur majeur de la transition énergétique. C'est une entreprise, vous le savez, avec une image très dégradée dans l'opinion. Ce n'est pas le cas d'Engie. Et donc, je me demandais, qu'est-ce qui explique, au fond, que Engie apparaît dans l'opinion comme un acteur de la transition énergétique, pas Total Energy? C'est des stratégies différentes? C'est parce que le pétrole apparaît comme plus sale que le gaz? Ou alors vous avez un meilleur service com que Patrick Pouyanné?
Non, le secteur pétrolier est un secteur qui est très différent de ce qu'Engie fait. Nous, nous ne produisons pas de pétrole et nous ne produisons pas de gaz fossile. Donc déjà, nos métiers sont très différents. Le seul gaz qu'on produit aujourd'hui, nous, c'est du gaz renouvelable, c'est du biométhane. Donc on est vraiment dans un secteur finalement assez différent. Et je pense que ce qui est important pour l'image d'Engie, moi je suis extrêmement attachée à ça, c'est qu'on fait ce qu'on dit, on ne fait pas de greenwashing. Quand on parle de la transition énergétique, on la fait vraiment. Ce sont nos métiers et on a cette durabilité parce que alignement entre le modèle d'affaires et la raison d'être du groupe.
Quand je vous entends dire greenwashing, on fait vraiment. Pour ça, j'ai même cité Total Energy. Vous dites en contre, d'autres font pas exactement la même
vous
évolution.
Vous ne me ferez pas dire du mal de Total Energy.
Non, c'est juste en vous entendant. C'est en vous entendant.
Non, non, pas du tout. Je dis, on est dans un secteur différent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance, je trouve, chez Engie, d'avoir cet alignement. Et je pense que c'est vrai que ça contribue. En tout cas, je le vois avec nos collaborateurs et puis les personnes qui considèrent rejoindre le groupe. Je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent et qu'ils chérissent.
Alors, je dois vous parler un peu, évidemment, d'une histoire belge. Puisque vous avez encore un petit bout de nucléaire, vous opérez en Belgique encore 5 réacteurs dans la centrale de Mol, qui est près d'Anvers, dans la centrale de Tihange, qui est près de Liège. Et il se trouve que le gouvernement belge avait jadis décidé de sortir du nucléaire. Et Engie avait commencé à préparer le démantèlement de ses réacteurs. Et puis d'un coup est arrivée la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie. Et le gouvernement belge a décidé de faire marche arrière et finalement de prolonger la vie de ses réacteurs. Alors, ce n'était pas quelque chose que vous aviez anticipé chez Engie. On sait que c'était une négociation très difficile avec le gouvernement belge, qui a parfois donné lieu à des mélodrames un peu politiques en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'une part, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu du point de vue d'Engie, et d'autre part, quel est le plan d'Engie maintenant sur le nucléaire? Maintenant que vous êtes un peu forcé de continuer à opérer ces 5 réacteurs, est-ce que vous comptez en ouvrir d'autres, relancer cette filière, ou est-ce que le plan est toujours de sortir du nucléaire chez Engie à terme?
Et non, en tout cas, de ne pas en développer ailleurs.
Clairement, la stratégie d'Engie aujourd'hui n'inclut pas le nucléaire. On a fait des choix et on ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est un acteur historique et très important en Belgique, vous l'avez souligné. Et donc, c'est vraiment le sens de nos responsabilités qui nous a habités. Quand effectivement, le gouvernement, l'année dernière, nous a demandé de reconsidérer la fermeture de l'ensemble des centrales nucléaires à l'horizon 2025... Cette fermeture qui avait été, en fait, décidée par la loi. C'est la loi belge qui stipule que toute activité nucléaire stoppera en 2025. Et donc, effectivement, cette demande qui est arrivée un petit peu tardivement, puisqu'on avait toujours dit qu'il fallait 5 ans pour un tel projet de prolongation...
Vous le dites de façon diplomatique, c'était tout à fait en dernière minute,
c'est
catastrophée.
C'est un petit peu tard, mais les circonstances 2022 étaient exceptionnelles à plein d'égards. Donc, le fait qu'une décision comme ça soit revisitée n'est pas complètement étonnant. On a eu, effectivement... une période de négociation très longue, qui s'est conclue en juin par un accord intermédiaire qui va continuer puisqu'on va avoir des accords finaux un peu plus tard. Et cet accord, c'est quoi? C'est de dire, OK, donc on va effectivement prolonger deux des centrales, hein, pas cinq, deux, au-delà de 2025, avec quelques conditions, et en particulier une condition d'alignement d'intérêts entre le gouvernement et Engie, afin de dérisquer cette opération pour laquelle le groupe avait décidé finalement de ne plus être exposé. Et donc nous avons construit cette idée de JV, d'un modèle commercial assez dérisqué, d'un plafond sur
le
passif.
Pour que le risque soit pris en charge par le gouvernement, l'État belge.
Pas pris en charge, mais mieux partagé. Mieux donc partagé. Un risque équilibré. Et puis, bien sûr, un sujet assez technique autour du passif lié à la gestion des déchets, puisque la gestion des déchets dans le nucléaire est quand même un sujet très important, assez compliqué. Et donc, nous avons un cadre de négociation qui nous permet d'envisager effectivement cette prolongation avec sérénité, en co-construction, collaboration, en fait, avec le gouvernement, sur 10 ans.
Mais sur 10 ans sur, vous êtes sûr du chiffre?
Sur 10 ans, ben c'est ouais. En tout cas, c'est l'accord, c'est vraiment
considéré aujourd'hui. On sait que les gouvernements belges ont tendance parfois à revenir.
C'est une extension de 10 ans. Après, il y a des enjeux, bien sûr.
Assez vite.
Non, puis il y a des enjeux de sûreté. Enfin, sûreté nucléaire étant évidemment le critère numéro 1. Et puis, ben, l'âge des centrales. Donc, voilà, aujourd'hui, on s'est engagé là-dessus, acteur responsable Engie, mais en revanche, ça ne change pas, Dominique Seux, notre vue que le nucléaire ne fait pas partie des priorités stratégiques.
D'accord. Parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il est trop cher, parce que les ENR, les énergies renouvelables, sont finalement plus rentables. Pourquoi vous? Parce que c'est vrai qu'en France, il y a des EPR qui vont se construire, il y a des petits réacteurs, il y a des projets. Vous n'allez pas sur ce créneau. Pourquoi?
Parce qu'on ne peut pas tout faire.
D'accord, ça n'est pas une attitude, un regard sur le nucléaire qui ne fonctionne pas ou qui finalement serait hors d'âge aujourd'hui.
Non, c'est pas un jugement sur le nucléaire, c'est que un industriel doit faire des choix, on peut pas tout faire et on a fait le choix de ne pas développer de nouveaux nucléaires.
Voilà, c'est la fin de cet écho de l'été. Merci Catherine MacGregor, merci François Jamel, merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Florent Layani. À la semaine prochaine, et vous pouvez naturellement retrouver cette émission et toutes celles qui l'ont précédée sur le site de France Inter à l'écho de l'été. Bonsoir.